Pourquoi dormons-nous ? Si vous vous posez cette question, cet épisode va vous donner des clés pour mieux comprendre votre sommeil et comment l'améliorer. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde, et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et pour commencer cet épisode, je vais vous donner un peu de contexte. J'ai assisté à une drôle de scène quand j'ai rejoint Hermanos, ce sont des filles Agrippas, traversées de la France en courant et en nageant. À la pause déjeuner, il m'a dit « je vais faire une sieste ». Mais il n'est pas allé se coucher. Il s'est endormi sur sa chaise pendant 3 minutes et il s'est réveillé en souriant. Moi, je me suis rendu compte de rien. Et il a recommencé le lendemain matin avant de partir pour sa nouvelle journée de course. Et pas tant non. Alors, Hermano m'a proposé de me mettre en contact avec sa coach sommeil, Lucille justement, avec qui il avait travaillé ce genre de questions et ce genre d'exercices. Lucille est conseillère en sommeil, hygiène de vie et sport. Et vous allez découvrir par quel moyen elle s'est intéressée à cette question vitale. Je dis bien vitale car le sommeil est vital pour notre énergie, notre bien-être, notre mental, notre vie tout simplement. Et ce sont les questions que nous avons abordées ensemble dans cet épisode qui valide totalement mon approche SAM, sommeil, alimentation, mouvement. À la fin, Lucille décrit même, sans le savoir, une situation de fatigue et de stress qui ressemble à la mienne il y a quelques années quand j'étais un gros hamster. Ensemble, nous avons parlé de l'importance du sommeil, des techniques pour l'améliorer, mais aussi de la difficulté à apporter une solution globale. Nous avons aussi parlé de la difficulté à organiser son sommeil et son quotidien, de pression sociale, de rythme de vie, de travail, mais aussi de peut-être pourquoi un jour la sieste finira par s'imposer du fait de l'évolution de la société et du climat. En tout cas, c'est ma conviction forte. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour Lucille.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu ?
Mais très très bien.
T'as bien dormi ?
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai bien dormi, donc c'est parfait. Je suis prête pour faire ma journée de manière efficace.
Ah, écoute, parce que moi c'est un vaste sujet. En ce moment j'ai quelques soucis de sommeil. Alors ce qui est totalement paradoxal, parce que moi ma méthode c'est SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Mais alors en ce moment, ma jauge de sommeil, elle est un petit peu catastrophique. Même si je regarde en fait, mon téléphone, il met ma durée de sommeil. Et dans ma durée de sommeil, il m'a marqué 6h02 cette nuit. Bon, mais en fait, ce qui était assez entrecoupé, etc. Donc, on va en parler de ces histoires de temps, de qualité, etc. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter.
Oui, très bien. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Lucille. J'ai plusieurs casquettes. Souvent, on me dit « qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?» C'est toujours une question que je mets 5 minutes à répondre. Mais j'ai essayé de faire plus court. J'ai fait des études dans la chimie, la biochimie. Donc j'ai un master en chimie. Et mon stage de fin d'études, je l'ai fait à l'INSEP. Et mon but, c'était de doser la mélatonine, donc l'hormone qui permet l'endormissement, dans la salive des sportifs de niveau pour savoir si leur rythme biologique était accordé en fonction de leur charge d'entraînement, des décalages horaires, des rythmes sociaux. Voilà, parce que les sportifs, ça reste des personnes humaines, voilà, qui ont une vie à côté du sport. Et j'ai commencé à m'intéresser au sommeil comme ça, et ça m'a réellement passionnée parce que les sportifs venaient me demander des conseils pour mieux dormir. Donc moi, je leur disais éviter les écrans, il faut se coucher à l'heure régulière, un peu toutes les règles que tout le monde connaît. Sauf qu'après quelques mois, certains avaient toujours gardé des symptômes de fatigue et de somnolence. Je voulais vraiment comprendre comment ça fonctionnait le sommeil. Donc après, j'ai déménagé sur Bordeaux et je me suis associée avec des médecins. Et c'est là où j'ai pu réellement comprendre en fait comment fonctionnait le sommeil, quelles étaient les pathologies du sommeil, comment on pouvait les pallier, etc. Et encore une fois, un sportif de haut niveau, c'est une personne comme tout le monde, donc il n'échappe pas forcément aux problèmes de sommeil au niveau de la santé. Bon, donc aujourd'hui, ça me permet d'intervenir à la fois auprès du grand public et auprès des sportifs de haut niveau, notamment au Krebs de Bordeaux.
C'est un élément qui est super intéressant et super important parce que le sommeil a été quand même négligé pendant des années. J'aime me rappeler cette anecdote quand même que le président de Netflix dit que le sommeil est son principal concurrent. Donc son but à lui, c'est d'éviter qu'on dorme et que la société considère d'ailleurs que dormir, c'est probablement une perte de temps. Alors que, franchement, c'est la base.
Oui, c'est la base pour plein de choses. C'est la base d'une bonne santé, d'une bonne performance. Performance, j'entends intellectuelle et physique, hein. Souvent, on a tendance à résumer le terme performance par courir vite, sauter haut. Sauf que, bah, aussi, toutes les personnes qui sont dans des entreprises ont aussi besoin de performer au quotidien, de sortir des chiffres, de réfléchir, de répondre à des questions, de trouver des problèmes, des solutions aux problèmes. Donc oui, c'est vrai que on a longtemps voulu éliminer le sommeil de la société parce que c'était une perte de temps, comme tu dis, et surtout c'était source de bah, coupure de productivité dans les usines, coupure de productivité aussi bah, dans les entreprises qui veulent faire du chiffre H24. Donc on a essayé de moins dormir, d'éliminer des phases de sommeil, etc. Sauf que bah, les problèmes de santé se sont accrus. Et c'est très très récent en fait, c'est depuis les années 60 que les médecins s'intéressent à la médecine du sommeil et de voir en fait quelles relations peut avoir le sommeil avec leur spécialité. Ça peut être en pneumologie, cardiologie, psychologie, etc. Et la plupart des médecins ont trouvé en fait une très grande corrélation entre les problématiques rencontrées chez leurs patients et le sommeil. Donc oui, c'est un vaste sujet.
Ouais, c'est un vaste sujet parce qu'il faut quand même rappeler que tout le monde dorme et tous les animaux dorment aussi. Même le dauphin dort par moitié. Il dort quand même. Donc, ça veut dire que si le sommeil est inventé, c'est que forcément, c'est qu'il est là pour, il est pas pour, là pour rien, quoi. C'est vraiment, tu disais, on a parlé beaucoup d'immunité ces dernières années et en oubliant à quel point le sommeil est important pour l'immunité. Et j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps de Sport Nutrition avec Anthony Berthoud qui rappelait aussi à quel point on était complètement déconnecté de la nature et du rythme circadien, être les lumières, les écrans, le fait qu'on reste enfermé, etc. Et que franchement, c'est compliqué quand même d'avoir un sommeil bien régulier tel qu'il faudrait être parce qu'on a oublié ce que c'était.
Exactement, bah, c'est vrai que comme tu dis, tout le monde dort et souvent on dit que le sommeil c'est vital parce que bah, nous les premiers, hein, quand on est trop fatigué ou qu'on en a marre psychologiquement, qu'on est irritable, etc., voilà, la première chose qu'on dit c'est faut que je dorme. Donc c'est pas pour rien que notre corps nous demande de se reposer et après c'est à nous aussi de, bah, de comprendre comment on fonctionne et de s'octroyer. D'assumer aussi le fait qu'on a besoin de repos pour pouvoir bah, performer à la fois professionnellement parlant et aussi socialement parlant.
Et oui, parce que, et tout à l'heure, tu parlais des somnolences, là, des problèmes de sommeil des sportifs, etc. Mais les somnolences, on connaît tout ça. Tu vois, moi, l'autre jour, je m'endormais sur mon bureau. Mais je savais, parce que ma nuit était compliquée, etc. Tu vois, j'étais en train de m'endormir sur mon bureau et de faire mes podcasts. Et en plein montage, j'ai dit, voilà, attends, là, il y a un truc qui va pas. Donc, pour une entreprise, c'est pour tout le monde, c'est problématique. Je veux dire, pour nous, dans notre quotidien. Alors, je parle même pas de la fatigue au volant. Il y a plein de cadres, hein, où la fatigue est vraiment, où le manque de sommeil nous pose vraiment des gros problèmes de vie, quoi.
Ah oui, bah, nous, les premiers, chez le grand public, on voit beaucoup de routiers en fait, qui viennent nous voir, ou des personnes du grand public, tout simplement, qui disent bah, j'ai failli provoquer un accident, et là, je me suis dit non, ça va plus. Donc, quand on se met en danger soi-même, bon, c'est une chose, mais quand on met aussi en danger les autres, c'est autre chose, et notamment bah, toutes les catastrophes. Style Tchernobyl, tout ça, en fait, c'est des personnes qui ont eu des problèmes de vigilance en fait sur leur poste de travail et finalement ça s'est transformé en quelque chose de catastrophique. Tout simplement. Donc c'est vrai que bon, après là, c'est des cas extrêmes, mais c'est pas rare, quoi.
Ouais, c'est pas rare. Et puis je pense que tout le monde. Alors il y a des moments en plus on s'endort plus facilement. Je veux dire la petite fatigue fin de matinée, début d'après-midi, vous endormir devant la télé le soir. Moi, à 21h, moi, tu mets un film et même l'autre jour et j'ai raconté parce que j'ai regardé la finale de la Coupe de France de foot, j'ai vu le premier but. Et quand je me suis réveillé, le match était terminé. Alors, le premier but, il a eu lieu au bout de 3 minutes. Et pour une fois qu'il y avait des buts, j'ai tout loupé. Alors, vraiment, tu vois, il y a une heure, il y a des créneaux, etc. C'est de la fatigue ou c'est mon rythme de vie, en fait ? Enfin, tu sais, de rythme circadien, comment je suis réglé entre matin, soir, etc. C'est quoi, d'après toi, souvent ce qui explique ça, en fait ?
C'est un peu tout. Il y a plusieurs choses qui expliquent les heures auxquelles on s'endort et on se réveille. C'est déjà comment s'est passée la journée. Si on a eu beaucoup de fatigue accumulée, après, je ne sais pas. Voilà, souvent, les sportifs, en plus, ils ont un double projet professionnel sportif ou étudiant sport. Voilà, ils sont debout à 7 heures, voire un peu plus tôt. Ils vont en cours, ils font du sport, ils mangent. Ils vont en cours, ils font du sport, voilà. Et forcément, le soir, ça pique un petit peu. Donc, il y a toute la problématique de la journée, sachant que l'endormissement aussi se prépare toute la journée. Et aussi, forcément, les rythmes circadiens, comme tu en parlais. Si tu es plutôt du matin, tu vas avoir plutôt tendance à te coucher tôt et te lever tôt. Si tu es plutôt du soir, tu vas plutôt avoir tendance à te coucher tard, te lever tard. Et si tu es intermédiaire, plutôt entre les deux. Et après, ça dépend de la fatigue que tu as accumulée les dernières semaines, voire les dernières années, et de se dire, si à 21h je suis fatiguée, alors il faut enlever un peu la pression sociale de se dire, à 21h ça fait tôt, mais finalement, si mon corps il me dit d'aller se coucher, parce que là, la problématique, à mon avis, que tu as eue, c'est que certes, tu t'es réveillée à 22h30, 23h, mais après, pour te rendormir, et pour faire une nuit complète, à mon avis, ça n'a pas été du gâteau. Donc là, c'est comme si tu avais fait une big sieste en fait, en fin de journée. Et limite, après, tu étais reparti pour une journée. Quoi. Donc,
alors, je ne suis pas reparti pour une journée, mais effectivement, c'est le genre de moment où après, tu finis par te faire mettre dans une série Netflix et où tu viens donner raison au président de Netflix. En plus, je le dis, mais enfin, ils sont bougres, les mecs là. La nouvelle série sur le Tour de France là, elle est juste dingue. Hier, tu vois, j'étais devant en disant, faut que tu dormes. Mais je veux savoir ce qui se passe. Mais en plus, je le connais, tu sais, l'arrivée en plus. Parce que le pire, c'est que c'est un documentaire sur le Tour de France. Je suis déjà regardé sur Wikipédia pour se rappeler qui s'est gagné la course. Mais on est pris quand même par ces trucs là et tout. On a cette espèce d'ambivalence, c'est-à-dire, on sait qu'il faudrait que j'aille me dormir parce que je serais plus en forme, mais en même temps. On se dit, ouais, mais alors, t'as dit l'histoire du CETO, j'ai envie de faire ça, j'ai l'impression que je vais perdre du temps, que je fais rien de mon quotidien, parce que finalement, je suis pris entre les enfants, la famille, le sport, le travail, toutes ces heures, etc. Enfin, on est un petit peu coincé entre les deux, là.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais changer, c'est le nombre d'heures dans une journée. Donc, il y a 24 heures, voilà. On aimerait tous que ce soit un peu plus, que ce soit peut-être 36 heures ou ce serait peut-être un bon chiffre, mais ça, malheureusement, on ne peut pas le changer. Donc après, c'est à voir quelles sont les priorités et de dire, moi, je veux, par exemple, que mes journées soient agréables à la fois pour moi et pour tout le monde, être en bonne santé sur le plus long terme, etc. Ou de dire, je vais profiter, quitte à dormir un peu moins et être fatiguée et que mes journées soient moins agréables, mais voilà, c'est chacun ses priorités.
Oui, alors pour autant, on va le dire, c'est que quand tu dors moins de 6 heures par jour, alors peut-être une fois ça passe, et encore qu'en vieillissant ça passe de moins en moins bien quand même, cette histoire-là, parce que moi je me rappelle de mes jeunes années où franchement, où quand j'étais étudiant, j'avais l'impression que dormir pas beaucoup, c'était facile, et puis il y avait un vieux aussi qui me rappelait, enfin un vieux, je travaillais en agence web, il y avait un vieux qui me racontait un truc, il disait, tu verras après 40 ans... Ça va fatiguer, etc. Il fêtait ses 40 ans. Alors maintenant que j'en ai 46 et que je vais sur mes 47, je me dis, putain, mais le vieux, il avait raison quand même. Mais c'est vrai qu'on a... Dormir pas assez sur une fois, on va le digérer plus ou moins bien. Mais alors, quand ça s'accumule, qu'on a cette dette de fatigue, ça devient vraiment catastrophique. Et on sait qu'en plus, ça provoque des maladies, qu'il y a des corrélations sur de nombreuses maladies, de nombreux problèmes de santé, quoi.
Oui, après, là, t'as évoqué la question de quantité de sommeil. Et généralement aussi, quand on peut dormir très bien le même nombre d'heures, mais pas forcément de la même qualité. Et généralement, quand on est jeune, on n'a pas forcément de problématiques de sommeil apparentes. Quoique, on va voir qu'en fait, il n'y a pas de discrimination. Généralement, les gens me demandent quel est le plus jeune patient que j'ai équipé. Quand je leur réponds 2 ans, ils sont assez surpris. Voilà. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait, pour avoir des problèmes de sommeil. Et, voilà, dès la naissance, on peut en avoir. Donc, ce n'est pas discriminant. Il n'y a pas de sexe, de poids, d'âge, de tout ça. Donc, c'est vrai que quand on est plus jeune, on a tendance à avoir une meilleure efficacité du sommeil, ce qu'on appelle. Donc, même si on dort 6 heures, bah, oui, on récupère bien. Et sur le long terme, quand on vieillit, en fait, la qualité du sommeil est de moins en moins efficace, ce qui fait qu'on a beau dormir 5-6 heures, bah, peut-être qu'il nous aurait fallu un peu plus pour avoir la même efficacité du sommeil et la même récupération efficace. Donc voilà, le but, c'est de garder la même efficacité et de voir justement sur quand on vieillit, qu'est-ce qui peut faire que notre efficacité de sommeil est moindre et comment on peut régler tout ça.
Et il y a un truc aussi qui est problématique, c'est que la société est quand même organisée en fonction de rythme de travail, de plein de trucs, mais pas en fonction du sommeil. C'est-à-dire que ça a été totalement... On parlait tout à l'heure d'histoire du matin et d'être du matin et du soir. Mais quelqu'un qui est du soir, la société, c'est juste un truc qui le fatigue par principe parce qu'il aurait tendance à ne jamais assez dormir. Enfin, en vieillissant, en plus, ça s'aggrave, cette histoire-là, si en plus la qualité de sommeil baisse.
Ouais. Oui, c'est ça. En fait, celui qui est du soir, il va dormir tard et se lever tard. Donc, après, ça fait partie des choix de vie. Par exemple, quelqu'un qui est comme ça, il ne pourra probablement jamais être boulanger. Parce que s'il se couche à 1 heure et qu'il doit se lever à 4 heures, voilà. À moins qu'il fasse des siestes et tout, qu'il trouve des stratégies de récupération, de sommeil, etc. Ça va peut-être marcher 10 ans, comme tu dis, jusqu'à ses 35-40 ans. Et puis après, peut-être qu'il va s'essouffler. Donc oui, le but, c'est aussi de pouvoir trouver une activité professionnelle qui soit aussi corrélée à nos propres rythmes biologiques. Mais bon, ça, comme tu dis, quand on passe un entretien d'embauche, on ne nous demande jamais notre chronotype, savoir si on est du matin ou du soir.
Ouais, c'est dommage, franchement.
Eh bien, oui. C'est ou comme... si on est petit dormeur, grand dormeur, voilà. Donc après, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai fait le choix d'être en auto-entreprise, ce qui fait que je suis une très grande dormeuse, je dors entre 9 et 10 heures par nuit. J'aimerais faire beaucoup moins, mais en fait, si je dors moins, je suis pas bien. Donc c'est comme ça. Et sauf que si j'avais un CDI ou en travail dans mon entreprise, ce serait impossible pour moi de me lever tous les jours à 7 heures, quoi. Enfin, ce serait possible, mais en tout cas, je le trinquerais sur plusieurs années, quoi. Et je me traînerais de la fatigue accumulée. Donc voilà, ça fait partie des choix, mais autant faut-il pouvoir le faire aussi. C'est un peu du luxe de pouvoir choisir le métier qu'on veut faire aussi.
Ouais. Et tu sais, on a plein de parents aussi qui ont des adolescents à la maison. Et qui doivent désespérer et qui désespèrent parce que les enfants et les adolescents, on sait tout ce que c'est. On se couche tard, on se lèverait tard, etc. Il faut quand même le dire que c'est normal, en fait.
Exactement, ouais. Exactement. En fait, c'est le chronotype en fait, qui se décale. Généralement, les petits enfants, là, ils sont plutôt du matin, couche tôt et lève tôt. Et puis, petit à petit, ça se décale vers le soir et vers le plus tard. Et forcément, l'éducation nationale, ils mettent des cours à 8 heures. Donc, pour ceux qui habitent à la campagne, il faut prendre le bus. Donc, ils se lèvent à 6h30, ils prennent le bus et puis en fait, ils s'endorment en cours. Donc, c'est ça aussi qu'on essaye de faire. On a créé l'école du sommeil à Bordeaux et on intervient dans les écoles et aussi les entreprises pour sensibiliser aussi les enseignants ou même les chefs d'entreprise au fait que si on voit quelqu'un s'endormir sur un poste de travail ou sur son bureau, qu'est-ce que ça signifie ? C'est pas juste parce que peut-être le cours n'est pas passionnant, c'est peut-être aussi parce que l'enfant, il a besoin de dormir et que il est en pleine adolescence et que c'est pas forcément lui mettre une heure de colle parce qu'il s'est endormi, quoi.
C'est un vaste sujet parce que si on y réfléchissait bien et qu'on prenait le sommeil comme étant le bénéfice qu'il apporte. Parce que, alors peut-être que toi, tu as le chiffre, mais si les gens dormaient assez, si tout le monde dormait assez, grosso modo, on ferait beaucoup d'économies, hein, sécurité sociale, médecins et compagnie, j'imagine.
Ouais, exactement. Là, il y a eu beaucoup d'études justement par rapport à ça. Les arrêts de travail, les burn-out, franchement, c'est incalculable. Donc oui, il y a des chiffres qui sortent, mais en fait, est-ce que c'est vraiment les chiffres ? On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment que le sommeil ? Voilà, parce que le sommeil a tellement de répercussions aussi sur le mental, la gestion des émotions, que ça devient un réel problème aussi en entreprise. Ouais.
Ouais, et puis ça aussi a un impact. Bon, après, on s'en doute sur l'énergie et tout, mais moi je le dis aussi sur l'alimentation. C'est à quel point on a envie de grignoter quand on est fatigué, le sucre, le gras et tout. Fou là là.
Oui, en fait, quand on dort moins bien ou quand on a un sommeil fractionné, ça veut dire discontinu pendant la nuit, on se réveille beaucoup, même sans s'en rendre compte, en fait, on va plutôt sécréter l'hormone de la faim, donc plutôt que de l'hormone de la satiété. Ce qui fait que quand on va se réveiller, peut-être il y en a qui vont se reconnaître en écoutant ce podcast, mais on se lève, on mange un petit yaourt, un petit biscuit, bon, voilà, on a un petit peu faim. Et surtout, la journée, on aura plutôt une appétence pour les, comme tu disais, en fait, les aliments gras, sucrés, salés, et forcément la prise de poids derrière qui s'ensuit. Et après, diabète, cholestérol, ce genre de choses. Sur le plus long terme, j'entends. Mais oui. C'est tout l'enjeu aussi de pouvoir travailler en équipe, parce qu'il y a des nutritionnistes des fois ou des diététiciens qui travaillent avec des gens qui ont beau suivre tout le protocole, tout le programme, bien faire comme il faut, etc. Ils n'arrivent pas à perdre de poids parce que tout en ayant ce rapport avec le sommeil. Ça m'est arrivé plusieurs fois que les nutritionnistes me demandent de prendre en charge des patients pour des problématiques de sommeil, mais à la base, ça venait d'une problématique de perte de poids. Voilà. Donc, et c'est notamment le cas chez les sportifs qui sont à catégorie de poids. Ouais. Donc tout ce qui est judo, lutte, boxe, surtout les sports de combat, et GRS, gymnastique, n'en parlons pas. Voilà, donc c'est vrai que certes, ça passe par un régime alimentaire, mais si le sommeil derrière ne suit pas, ça va être difficile d'arriver à atteindre ses objectifs.
Oui, et puis en plus, ça doit être compliqué sur les sportifs de haut niveau, parce que en plus, certains ont un entraînement bicotinien des fois, ils s'entraînent matin, soir. Par exemple, une catégorie à poids, par exemple l'aviron. J'ai souvent l'aviron parce que c'est une catégorie quand même où il faut qu'il soit quand même léger, etc. Moi, quand je les vois, bord de l'Allier, des fois les matins, je les vois le samedi matin super tôt, des fois je les vois en fin de journée et tout. Et on sait, alors, si t'es du soir et que le samedi matin, tu s'endrais à 7h, bon, déjà ça caille. Hein. Mais après, en plus, donc, t'as vraiment ces sortes de sommeil, de repas, etc., comment tu gères. Mais si tu fais de l'entraînement le soir intensif, ton sommeil aussi il est vachement impacté. Donc, ça doit être super compliqué. Alors, après, tu rajoutes en plus ces histoires de poids et tout. Enfin, pour un sportif de haut niveau, mais même pour un sportif au global, c'est encore plus compliqué de gérer ça, quoi.
Oui, c'est pour ça que généralement, on réfléchit et on met en place des stratégies sur le sommeil sur le long terme. Ça veut dire qu'on ne regarde pas juste qu'est-ce que tu vas faire demain et je vais te dire comment tu vas pouvoir faire pour dormir ce soir. Non, c'est comment va se passer ta saison, est-ce que tu as des blocs d'entraînement, quand sont les compétitions, etc. Donc le but, c'est pendant les phases d'entraînement d'avoir un sommeil le plus récupérateur possible, voire légèrement supérieur aux périodes de compétition. Parce qu'on sait tous que les périodes de compétition, on va puiser dans notre, dans nos réserves, que ce soit énergétique, mental, sommeil, etc. Mais oui, le but, c'est de en amont et de pouvoir aussi voir comment la personne arrive à récupérer, à quelle rapidité. Voilà, on n'est pas tous égaux face à la récupération au sommeil. Il y en a qui vont rentrer peut-être chez eux dans un appartement, il y en a ils vont dormir en maison, il y en a ils sont sur des lieux de stage, il y en a ils sont deux par chambre. Voilà, donc c'est aussi en fait tout l'environnement du sommeil aussi à prendre en compte et de dire donner des conseils qui sont appropriés vraiment sur le terrain, parce que oui, on peut donner des millions de conseils. Souvent on me dit alors c'est quoi la solution pour mieux dormir? Je ne peux pas répondre à cette question, en fait. Ce serait trop banal, entre guillemets, de répondre à ça.
Oui, mais tu sais, tout le monde cherche la pilule magique. C'est-à-dire que moi, j'ai écouté je ne sais pas combien de personnes qui m'ont dit « Mais il suffit de prendre de la mélatonine et tout d'un coup, tu dors bien mieux. » Si c'était comme ça, ce serait facile.
Ouais. Alors ça, c'est Alors, qui c'est qui t'a dit ça?
Oh, je l'ai écouté sur des podcasts, j'ai écouté, tu sais, des gens qui sont un peu dans qu'on appelle le life hacking et compagnie et tout. Et non, parce qu'en général, les invités sur le podcast, ils sortent pas ça, tu vois. Ils vont pas jusqu'à ce point-là, mais ceux qui sont à la recherche de petits produits miracles, de pilules magiques, etc., ils disent, Ouais, mais moi, je prends de la mélatonine maintenant tous les soirs et tout. Pff, je suis sûr que je vais bien dormir. Bon, ça marche ou ça marche pas?
Alors oui, ça aide. Parce que la mélatonine, en fait, aide à l'endormissement. En fait, c'est une hormone qu'on sécrète toutes les 24 heures. Donc forcément, en fait, si on provoque, entre guillemets, un rythme circadien régulier, c'est un peu comme les femmes qui prennent la pilule, hein, finalement, c'est contrôler un peu via une pilule ou un médicament le cycle hormonal. Donc forcément, ça va aider à l'endormissement. Si toutefois, tu prends de la mélatonine, mais qu'à côté, tu fais tout ce qu'il ne faut pas, bah forcément, la mélatonine ne va pas forcément être d'une grande aide. Donc si tu fais, comme tu dis, du sport en soirée, que tu es devant les écrans, que tu manges tard, voilà, que tu respectes pas un peu tout ça, bah forcément, si tu comptes que sur la mélatonine pour t'endormir vite et pour bien dormir, ça va pas d'être une efficacité considérable.
Ouais, mais tu sais, moi j'ai un cocktail magique, c'est je prends 3 cafés et je prends la mélatonine. Ça marche bien, ça, c'est super.
Voilà.
C'est top comme truc.
Voilà, exactement. Donc après, tout ce qui est excitant, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais les boissons énergisantes, les cafés, même le thé. Ouais.
Bon, bien sûr, moi, l'histoire du café, c'était une blague, parce que le café ne dépasse jamais les 14 heures chez moi. Hein, c'est la zone prise maximum. Surtout qu'en plus, je fais de la torréfaction. Tu sais, je fais du truc lent, moi, tu sais, que donc la dose de caféine, quand même, elle est un peu ma stock dedans. Donc, c'est pour ça que maintenant, je l'avance. Ce qu'il faut quand même rappeler un truc, c'est que la caféine, ça perturbe quand même. Hein, ça fait partie des drogues. Alors d'ailleurs, dans un bouquin, je recommande toujours, c'est Pourquoi nous dormons, il montre qu'une araignée qui en donne de la caféine ne sait plus faire une toile d'araignée. Donc ça montre quand même la problématique globale des trucs, mais c'est que la vie de la molécule de caféine dans notre corps, elle dure mais super longtemps, et qu'elle vient justement aller perturber les signes d'endormissement, et ce qui nous amènerait à dormir.
Oui, alors on n'est pas tous égaux face à la caféine non plus, parce que y en a, ils peuvent prendre... Nombre de gens qui me disent « Ah, moi, je prends un café à 23h, ça ne me fait rien du tout. » Bon, okay. Donc oui, y en a, ils sont insensibles à la caféine. Alors après, forcément, il y a aussi une question de dosage de la caféine. Si tu prends un DK, oui, forcément, ça ne va pas te faire grand-chose. Si tu prends un café force 10, oui, là, ça peut peut-être te faire quelque chose. Ça va être notamment aussi par rapport au rythme cardiaque. Ça va augmenter, en fait, cette fonction-là. Ce qui fait que, en fait, pour pouvoir s'endormir, il faut aussi pouvoir faire en sorte que la fréquence cardiaque du cœur puisse ralentir. Donc, si tu as pris un café juste avant, bah, c'est pas extraordinaire. Donc, ça, c'est dans la vie de tous les jours, on va dire. Après, si, par exemple, tu as une compétition le soir qualificative pour les Jeux Olympiques et que ta course est allée à 21h, bon, pourquoi pas prendre de la caféine, voilà. C'est toujours... J'ai jamais, en fait, les gens, je sais pas s'ils m'aiment trop, parce que j'ai jamais des réponses oui ou non, en fait.
Ouais, non, mais t'inquiète
pas. C'est toujours à prendre avec, en considération avec ce que tu recherches. Voilà.
Non, mais t'as raison. T'as raison, parce que c'est vrai que si demain je participe à une compétition qui me qualifie pour les Jeux Olympiques, je vais plutôt chercher un truc qui va me donner l'excitation. Et on le voit d'ailleurs, parce que quasiment tous les trucs, les gels et compagnie là, que prennent les sportifs et tout, il y a toujours de la caféine dedans. Il y en a certains qui sont très enrichis, il y en a qui en ont plus ou moins, etc. Voir le succès des boissons qui donnent des ailes ou qui donnent je sais pas quoi. Moi, j'ai un souvenir quand même d'avoir vu un joueur de foot professionnel faire les courses un jour dans un supermarché. Je l'ai vu sortir avec des canettes de... Mais je sais pas, il en avait peut-être 50 ou 60 canettes dans son chariot. Et j'ai vu des rugbyman pro aussi en avoir dans les vestiaires, etc. Donc ça veut dire que cette recherche d'excitant quand même, et on peut la comprendre chez certains sportifs, ils en ont besoin ou en tout cas... Ils en ressentent le besoin, parce que de là après, est-ce qu'il y a les effets ? Et c'est vrai que c'est une question de contexte. C'est-à-dire que c'est pas non plus tous les jours, ils vont faire ça, quoi.
Ouais, exactement. Et après, c'est avec modération, forcément. C'est toute la complexité, encore une fois, après de l'autodiscipline, en fait, qu'on va se donner, de se dire, bon, ça reste exceptionnel, voilà, c'est une fois tous les mois, tous les 2 mois, je le fais pour tel objectif, etc. Après, si on le fait tous les jours, et qu'après, on a du mal à s'endormir, qu'on a un sommeil fragmenté, qu'on se réveille pour manger, qu'on se réveille fatigué, que la journée, c'est compliqué, qu'on s'endort au boulot, bon, après, il va peut-être falloir changer quelque chose dans les habitudes de vie, quoi.
Ça se modifie facilement le sommeil ou c'est un truc qui n'est pas facile à régler en fait. On parlait d'autodiscipline, mais c'est facile à faire évoluer.
Alors ça dépend parce que en fait il y a des problèmes de sommeil qui vont être dus à un problème plutôt d'éducation, d'hygiène de sommeil, on va dire, comme on est en train de parler depuis le début. Voilà, donc ça va être changement d'habitude, faire comprendre à son entourage que on veut mettre l'accent sur ça. Donc est-ce que l'entourage va suivre aussi sur les changements d'habitude? Voilà, ça c'est une discussion à avoir à plusieurs. Si on est en colocation, n'en parlons pas. Et après il y a des problèmes plutôt physiologiques, donc, par exemple les apnées du sommeil. Quand on détecte chez quelqu'un des apnées du sommeil sévères et qu'on l'équipe assez rapidement avec un appareil qui lui permet d'améliorer sa respiration de manière quasi 100%, là oui, du jour au lendemain les personnes peuvent avoir une vraie différence. Voilà, ça dépend du problème de base, ça dépend si le problème date de hier, avant-hier ou depuis l'enfance. Voilà, au plus le problème est installé depuis longtemps, au plus forcément de pouvoir le réguler va prendre plus de temps aussi.
Puis il y a après je ne sais pas comment on peut gérer ça, mais il y en a qui ont peur aussi de dormir peut-être.
Oui. Oui, c'est la peur du silence, peur d'être seul, peur du noir. Il y en a d'être dans une pièce enfermée, ouais, tout seul et tout. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi avec des psychologues, des sophrologues, hypnothérapeutes, musicothérapeutes, enfin tout ce qui est médecine alternative, yoga, etc. pour pouvoir en fait changer la vision du sommeil et faire en sorte que la personne ait moins d'anxiété. C'est généralement le cas hein, des enfants. On a tous entendu, ou même nous on est peut-être même passé par là, de dire j'ai peur des monstres, j'ai peur de l'orage, le toit qui va me tomber dessus, enfin, on imagine toutes les catastrophes. Mais finalement en fait c'est de généralement la première mission des médecins aussi qui rencontrent des personnes ayant des problèmes de sommeil, c'est que les personnes reprennent confiance en leur sommeil. D'accord. Donc c'est de se dire non, en fait, je dors parce que, X raison, il n'y a aucun problème à s'endormir. Il ne va rien m'arriver d'extraordinaire. Bah, je ne vais pas mourir 2 minutes après. Ouais. C'est de se recentrer et de reprendre confiance à l'efficacité de son sommeil.
Ouais, c'est intéressant, vraiment, ce truc-là. Et puis, d'ailleurs, je pense que c'est... quand on parle de sport, parce que là, on est aussi centré sur le sport, mais... se dire qu'on a confiance dans son sommeil, dans sa capacité à récupérer par le sommeil, fait aussi partie finalement de se dire, c'est aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle l'entraînement invisible finalement, de dormir, de bien récupérer, etc. Donc, si on a confiance dans son sommeil, on sait aussi que finalement de bien dormir va nous aider à progresser dans notre sport.
Ouais, en fait, j'ai vraiment l'exemple d'une sportive là que j'ai eue cette année. Elle était tout le temps fatiguée, du mal à se concentrer. Aux entraînements, elle ne progressait pas énormément. Niveau social, ce n'était pas extraordinaire. Bon, il n'y avait pas grand-chose qui allait, quoi. Et puis, donc après, j'ai enregistré son sommeil. Je lui ai fait remplir plein de questionnaires. Elle a porté une montre pendant un mois, etc. Et en lui rendant les résultats, je lui ai dit, écoute, il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien qui me dit que tu dors mal, etc. Et je lui dis, par contre, on va se revoir dans un mois parce qu'elle, il lui manquait plutôt de la quantité de sommeil. Mmh. C'est-à-dire, comme 100% des sportifs que je suis, il en manque de la quantité de sommeil. Donc, elle me dit, ah ok, d'accord. Donc, on s'est revus un mois après. Et puis, en fait, elle me dit, en fait, j'étais tellement rassurée quand tu m'as donné les résultats que si c'est que, entre guillemets, une question de quantité de sommeil, elle me dit c'est bon, je vais gérer. Voilà, donc elle a été extrêmement rassurée en fait des résultats, et suite à ça après elle était beaucoup plus en forme, et même mentalement en fait elle était libérée d'un poids en fait.
D'accord, donc c'est à dire qu'après elle s'est dit bon maintenant il faut que je mette ma quantité de sommeil, enfin à la limite on pourrait dire c'est comme une plage de... enfin, et alors moi je le dis en plus parce que dans mon agenda c'est marqué comme ça. Moi j'ai mon sommeil, c'est marqué de 22h au lendemain. Alors Généralement, c'est jusqu'à 5h ou 6h. Enfin, en fait, moi, à 5h du matin, je démarre. Donc, mon truc, c'est qu'il faut que je dorme à 22h, quoi. Et c'est vraiment le maximum. Mais dans mon agenda, c'est marqué, ouais. En fait. Tu sais, j'ai un rendez-vous avec moi-même, avec mon sommeil.
Ouais, c'est ça. Et après, en fait, c'est toute la question, ça va être de si j'atteins déjà la quantité de sommeil qui m'est nécessaire. Déjà voir si je suis plus en forme, bon, après tout ce qu'on a dit depuis le début. Si toutefois, même en dormant 8, 9, 10 heures par nuit, bon, 10 heures c'est rare, bon, avec les rythmes de vie qu'on peut avoir et toutes les contraintes sociales et tous les appâts qu'on peut avoir autour de nous. Mais si toutefois en dormant plus, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'il me faudrait idéalement, je suis encore fatiguée, j'ai encore des symptômes, etc. Là, c'est là où après, ça peut être question de qualité.
J'ai un truc qui est intéressant, mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont et je sais pas si t'as une astuce pour ça. Moi, la dernière fois, j'ai fait une course de vélo j'ai fait 170 bornes de vélo. Non, 147, pardon, 170, bon, je dormais pas très bien non plus, mais 147, avec du dénivelé, ça fait 13 heures sur le vélo et tout. Ça se finit à 21h30, et à minuit 30, je dors toujours pas. À 1h du matin, je dors toujours pas, etc. Et par contre, le lendemain matin, à 5h, je suis réveillé. mon réveil était systématique. Est-ce qu'on a un moyen, quand même, d'arriver à calmer, parce que là, c'est l'excitation, il y a plein de trucs qui jouent, quoi. Est-ce qu'on a quand même moyen d'arriver à avoir un sommeil derrière, à retrouver le sommeil plus facilement quand on vit ce genre de truc-là.
Ouais. Alors, y a, comme tu dis, hein, il y a l'adrénaline, tu refais ta course, pour que tu aies fait un bon truc, tu es trop content. Il y a les médias, les paparazzi qui viennent te voir, ta
Instagram et
famille,
tout,
Instagram,
bref.
voilà, les réseaux. Voilà, enfin, donc, généralement, ce qu'il y a, c'est que. Donc, il y a la température centrale qui, elle, régule énormément de choses dans notre corps. Et au plus la température centrale, donc la température intérieure de notre corps, est élevée, au plus ça va nous maintenir éveillés. Donc le but, c'est déjà de refaire diminuer cette température centrale, d'où la cryothérapie, ce genre de choses qui induit aussi plus facilement le sommeil. Donc ça, on peut le faire avec bah, des bains froids, des douches froides, avec des bains de pieds. Avec des glaçons dans la nuque, enfin bon, c'est faisable, on va dire. Après, il y a donc le relâchement musculaire. Donc ça peut se faire avec des étirements, des bottes, des rouleaux, des pistolets, des étirements, des massages, etc. Après, il y a le relâchement mental. Donc ça, c'est généralement le plus compliqué, hein, parce qu'on a été à fond pendant 3 heures. Donc ça, c'est 3 heures, mais le temps de course. Mais tu as eu avant, tu as eu après. Donc finalement, ça double, au moins ça double le temps. Donc ça fait 6 heures que tu es au taquet. Donc c'est de refaire dans ça. Donc généralement, c'est tout ce qui est méditation, relaxation, auto-hypnose, ce genre de choses. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est lumière. En fait, éviter de s'exposer trop à la lumière, parce que en fait, on a des récepteurs sur les yeux qui envoient ensuite un message dans notre cerveau pour dire là, il fait jour ou il y a de la lumière, en tout cas dans ces longueurs d'onde-là, donc reste plutôt éveillé. Et si la lumière elle est plutôt sombre, plutôt faible, bah là, il est l'heure de s'endormir. Donc notre corps est bien fait, il réceptionne un peu tout l'environnement extérieur. Et le but, bah, aussi de se mettre dans sa bulle, peut-être bah, mettre un masque pour éviter la lumière, les boules quies pour éviter le bruit, etc. Et surtout, ne pas se mettre dans son lit dans l'espoir de dormir. Parce que ça, c'est le pire, en fait. C'est le but du lit, en fait, c'est de dormir. Et le but est d'associer le lit à l'action de dormir. Ou plus, c'est l'affinité, bien sûr, je dis pas. Mais en fait, si on se met dans son lit pour dormir, pour manger, pour regarder les écrans, pour être avec son conjoint, etc., le moment de s'endormir, en fait, notre corps, il comprend pas parce qu'on est resté au même endroit et dans la même position. Le but, c'est d'être prêt aussi à se dire qu'après un effort comme ça, oui, on va moins bien, on va s'endormir plus tard, on va moins dormir en quantité. Mais c'est pas grave parce que bah c'est le jeu.
Ouais, puis j'ai fait une sieste le lendemain.
On fait une sieste le lendemain, on va peut-être s'endormir plus tôt le lendemain aussi. Voilà. Et puis après, ce sera du travail en amont qui va être fait, de, comme on disait tout à l'heure, de faire des stratégies d'accumulation de sommeil en amont. Et après, bah, forcément, de faire, comme tu disais, des siestes récupératrices, etc. Se coucher plus tôt les jours suivants. Et puis tout ce qui est stratégie de récupération annexe, tout ce qui est nutrition, hydratation, hyper important aussi.
On arrive vraiment à accumuler du sommeil avant, enfin à faire un petit stock là, de sommeil avant.
Ouais. Ah ouais. Ouais, ça a été, ça se fait notamment chez les navigateurs qui partent en solitaire là, pendant un mois, où généralement aussi, on prend plutôt l'été en tant que sportif comme un moment où on va pouvoir se relâcher, etc. Mais finalement, en fait, ce serait dans l'idéal le moment où on pourrait faire le plus de réserves de sommeil. Donc oui, c'est possible.
Et donc, la réserve de sommeil, c'est quoi? C'est de dormir, c'est finalement trouver un rythme qui nous permet de dormir plus?
Ouais, exactement. Déjà, plus que ce qu'on a fait pendant la saison ou pendant les matchs ou pendant la période de compétition. Et surtout, en fait, de se coucher plus tôt et de, en fait, d'écarter en fait, l'échelle du coucher et du lever.
D'accord, ça marche.
Progressif, hein. C'est pas, voilà, si tu t'es couché toute l'année à minuit et que tu te lèves à 8h et que là tu dis ok, je fais du 21h30 10h, bah non, en fait, ça va pas marcher. C'est un peu comme les décalages horaires, en fait. Mm. On va se créer un décalage horaire, ça veut dire on va se décaler dans le temps, on va décaler notre rythme biologique, mais en restant progressif.
Ouais. Alors que le décalage horaire que tout le monde fait, c'est celui du week-end avec la grasse mat.
Ouais. Et qui est exactement.
Ce qui est pas bon. Celui-là, il est pas bon par contre.
Il est pas ouf, ouais, en effet. C'est pas généralement, oui, les gens au week-end ils partent à New York ou à Abu Dhabi, tu vois. Donc, non, c'est pas extraordinaire.
Est-ce que le sommeil, il y a besoin de régularité, en fait, c'est la régularité. Il faudrait dire que le week-end on rattrape un peu, mais il faudrait pas décaler de une heure, faudrait décaler pas beaucoup plus.
Ouais, dans l'idéal, c'est pas plus de 2 heures. Deux heures, bon, c'est. Quand on y réfléchit, c'est déjà pas mal, mais c'est pas beaucoup non plus. Mmh. C'est-à-dire que si on se lève à 7 heures tous les jours, ça veut dire se lever à 9 heures. C'est pas. Mais. Ouais, c'est ça, pas plus de 2 heures. Ouais.
Bah ouais, mais tous les amoureux de la grasse mat, tout le monde dit.
Ce qu'il y a, c'est que si on a besoin de rattraper le week-end, ça veut dire que la semaine, eh ben, on n'est pas du tout en fait avec nos rythmes biologiques et pas du tout en fait. En corrélation avec la quantité de sommeil qu'il nous faut. Donc on essaye de rattraper, mais voilà, c'est un peu comme ceux qui font encore en nutrition, où souvent on dit on se lave les dents, c'est comme si vous ne lavez pas les dents de 5 jours et que vous lavez les dents 10 fois dans le week-end. Mmh. Voilà, c'est pas l'idéal. Après, encore ouais. Une fois, ouais, les jeunes sportifs, ou les sportifs tout court, ou même ceux qui ont un rythme de vie en décalé aussi, voilà, ils font de leur mieux, on fait tous de notre mieux, hein. On essaye de trouver du temps de repos et forcément ça passe par les week-ends ou les jours de repos. Parce que souvent, on parle de week-end, mais il y a de plus en plus de gens en fait, qui ont des jours de travail complètement décalés, ouais. Qui font les 3-8, qui travaillent 3 jours, qui ne travaillent pas 3 jours, enfin voilà. Et ça, c'est encore pire. Mais c'est, encore une fois, c'est de la discipline et de se dire... Qu'est-ce qui fonctionne le plus pour moi et qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour que ça fonctionne 100%.
Mais alors, tu vois, l'histoire des 3-8, c'est souvent des questions que j'ai sur les 3-8. Parce que c'est un truc qui est compliqué à gérer, mais sur tous les plans. Sur le plan, bon, ceux qui s'entraînent, ceux qui, pour dormir, pour manger, pour l'organisation de famille et tout. Enfin, alors, sur le sommeil, pour quelqu'un qui est en 3-8, ce serait quoi comment arriver à l'aider, en fait? Parce que...
Bah, encore une fois, ça dépend ce qu'il a mis en place déjà, comment il réagit au décalage horaire, quelle est sa situation familiale, et surtout, quels sont ses horaires de 3-8, parce que ça dépend aussi si c'est un petit dormeur, un grand dormeur, un chronotype du matin, du soir, si c'est au niveau nutritionnel, comment sont ses habitudes. Tu vois, je te dis, tout le monde me déteste parce que je ne dis jamais les réponses, mais c'est très difficile, en fait, de donner une réponse brute comme ça et de donner les bons conseils parce que il y en aurait beaucoup.
Ouais.
Et puis après, voilà, dans quel environnement sociétal il évolue.
Mais je crois qu'en plus, ce qui est terrible avec les 3-8, parce que moi j'en ai vu des, dans ma famille, des ouvriers, des choses comme ça, c'est que ça change. C'est-à-dire que c'est. Moi, tu vois, j'ai mon beau-père qui était boulanger pendant 40 ans. Il s'est couché le soir à 21h, il se levait à 2h du matin, il faisait la sieste, et ça durait pendant 40 ans. Bon, après, au fur et à mesure, ça se décalait un peu, parce qu'il y a des jours, il commençait à 10h le soir. Le samedi soir, à une époque, les boulangers commencent à travailler à 10h le soir. Hein. Maintenant, ils peuvent commencer beaucoup plus tard, il y a des méthodes, mais il a été tellement régulier que finalement, même maintenant à la retraite, il continue à le faire parce que c'était sa régularité. Mais le problème des 3-8, moi j'ai vu, parce que j'ai vu des gens qui travaillent chez Michelin, tu vois, dans des usines et tout, parce que moi je suis à Clermont, et qui, eux, tous les 15 jours, tous les 3 semaines ou tous les mois, ça changeait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se retrouvaient à nouveau à devoir remettre du rythme, etc. Enfin, ce changement-là, en fait, on ne peut pas l'absorber en 2 jours. Enfin, il faut des semaines même pour l'absorber, un tel changement.
Ouais. Bah oui, c'est tout le problème. Alors, soit des gens qui font les 3-8, ou soit aussi les stewards ou les choses comme des commerciaux qui font que voyager à droite, à gauche, etc. Oui, en fait, souvent on dit « Ah, mais moi, je suis réglé comme une horloge ». C'est le truc qu'on dit, voilà, comme toi, tu te lèves tous les jours à 5 heures, bah oui, ton horloge biologique, elle te fait réveiller à 5 heures, voilà, c'est comme ça. Donc après, oui, c'est forcément beaucoup plus simple, et notamment, encore une fois, au niveau hormonal, de faire quelque chose de beaucoup plus régulier, plutôt que quelque chose qui va changer tous les 4 matins. Donc ça, ce sont des problématiques sociétales et d'entreprise, de business, de tout ce que tu veux. Et après, c'est de remettre, en fait, non pas l'argent au cœur du problème, mais plutôt la santé du personnel. Mais ça, ça va prendre quelques années, je pense.
Ça, c'est une catastrophe. Tu sais, sur mon compte LinkedIn, j'ai mis un message en disant qu'on aurait dû mettre dans la loi sur les retraites un truc en disant qu'on a droit d'augmenter l'âge de retraite que si on fait vraiment quelque chose pour augmenter l'âge de bonne santé, d'espérance de vie en bonne santé. Parce que rappelons quand même que l'espérance de vie en bonne santé chez les hommes, c'est 64 ans. Et que ça augmente pas, en fait. C'est-à-dire que notre société a vraiment un problème sur la santé, sur l'évolution de la santé, etc. Que c'est problématique, c'est une problématique plus large. Mais le sommeil en fait partie. C'est vraiment important dedans. Mais bon, on va pas rentrer dans les critères politiques. Il y a un truc quand même que dont je veux dire avant qu'on en parle, parce que avant qu'on se quitte. On était mis en relation par l'ami Armano, là, qui est en train de terminer, là, au moment où on se parle, son défi de traverser la France,
ouais.
etc.
Ah ouais.
Et le jour où je mangeais avec lui, on était à Mâcon. Et puis, j'étais en face de lui. Et puis, à un moment donné, je vois fermer les yeux. Et puis, j'ai rien dit. Je me suis dit, il doit méditer, doit respirer et tout. Et il me dit, ah, t'es bien cette sieste. 3 minutes sur une chaise, il s'est endormi, il a fait une sieste. Non, mais comment c'est possible que ça serve à quelque chose?
Explique-moi. Trop fort. Ouais. En fait, on vit dans une société où on est tout le temps... sollicité, le téléphone, les écrans, la voiture, le travail, les enfants, bon, tout. Et en fait, de s'endormir comme ça, en fait, il y a une question de pression de sommeil, parce que Hermano, bon, il fait quand même un marathon et demi par jour, donc forcément, il y a peut-être de la fatigue qui s'accumule, et notamment de la pression de sommeil. Ça veut dire que c'est comme un peu des déchets qui s'accumulent dans le cerveau. Et en fait, on arrive à une pression de sommeil qui est telle que, en fait, notre corps va dire « repose-toi ». Donc, c'est généralement... En plus, tu as dû le voir vers l'heure du déjeuner, peut-être.
Bon, en fait, c'était juste après le déjeuner. Parce que, en fait, il me dit « ouais, je vais faire une petite sieste ». Alors moi, je me suis dit « bon, il fait une petite sieste ». Il y avait le van à côté, tu vois, etc. Je me suis dit « bon ». Je m'attendais à un moment donné à aller voir, je me dire « il va se mettre dans le van, il va dormir ». Et puis, je vois sur cette chaise. Et puis il me dit, ah, elle était bien. Alors, tu sais, moi, je m'étais dit, mais j'ai pas le temps de faire ma sieste, moi. C'est quoi cette histoire? Ouais, c'était quoi 13h, tu vois, dans cette zone-là, quoi, juste après après le déjeuner, quoi.
Alors, après le déjeuner, en fait, il y a la température centrale qui diminue un petit peu. On a un petit creux. Et c'est ça, en fait, qui induit généralement la baisse de vigilance ou la somnolence en début d'après-midi. Ça peut être la digestion, mais c'est plutôt dû à cette température centrale-là. Surtout, lui, il a fait un effort avant, donc du coup, sa température centrale a notamment d'autant plus chuté. C'était en plus post-prandial, donc post-repas. En plus, tu avais eu forcément une discussion passionnante avec toi, donc je vais aussi emmagasiner tout ce que vient de me dire Bertrand. Donc hop, on se pose, on relâche les muscles. Au niveau respiratoire, on essaie de calmer le plus possible la fréquence cardiaque. Et puis après, on se pose 5 minutes et on repart.
Et c'est vraiment efficace.
Ouais. Oui, parce que, encore une fois, c'est un effet comme si tu éteignais un peu l'interrupteur de ta lumière, de dire pendant 3 minutes, il ne se passe rien, et après, je remets la lumière. Voilà.
D'accord.
Donc, oui, c'est efficace. Généralement, les siestes, c'est très connoté endormissement, etc. Le but d'une sieste, c'est vraiment juste de se poser sans bruit, sans rien. Sans interaction avec le monde extérieur, juste se poser. Si on s'endort, tant mieux. Si on s'endort, ça veut dire que il nous manque aussi du sommeil et qu'on n'a pas assez dormi la nuit d'avant, ou qu'on doit récupérer d'un effort intense qu'on vient de faire. Donc là, Hermano, oui, il a appris aussi à faire ça, parce que ça fait plus d'un an du coup qu'on travaille sur les siestes, sur son sommeil, en effort, etc. Et ça s'apprend aussi. Ça s'apprend à pouvoir en fait se couper du monde extérieur et de dire je me repose, me parlez pas, même sur une chaise, ça fonctionne quoi.
Non mais et c'est drôle, et puis je vais raconter une autre anecdote, et parce que le lendemain matin, avant de partir et tout, et puis moi je pensais qu'il allait juste faire les petits massages, etc., et il me dit juste avant de partir, il me dit j'ai dormi 2 minutes 30. Je dis, mais après le petit-déj, je dis, mais attends, Hermano, et tout. Et c'est dingue, hein, ce truc-là. Donc ça, il s'est entraîné là-dessus pour arriver à le faire et que ça lui apporte le bien-être.
Ouais, exactement. Puis ça permet vraiment de entamer sur quelque chose de nouveau après et d'être efficace, d'être présent aussi sur ce qu'on est en train de faire. Hermano, il fait quelque chose d'absolument unique, que moi je serais incapable de faire, mais voilà, c'est sa manière aussi de lui de dire je me suis levée, j'ai pris mon petit déj, et comme une espèce de préparation mentale, physique, un peu le cumul de tout, de dire je fais cette pause-là, et après, fou, je cours 60 km. Tout simplement.
Ouais, après il fait une pause au milieu pour faire une sieste quand même. Non mais attends, il fait 2x30 et tout, il fait une pause au milieu pour faire une sieste, il mange, etc. Enfin, après voilà. Non mais après c'est vrai que c'était très impressionnant parce que déjà moi le matin j'avais du mal à le suivre alors que lui il courait depuis je sais pas combien de temps et moi j'avais du mal à le suivre. Et c'est vrai que ce coup-là, moi je m'attendais pas, moi je pensais qu'il je lui dis t'as médité, il dit non, j'ai fait une sieste. Vraiment c'était impressionnant. Et alors le truc c'est que ce matin avant ma petite balade, je faisais une petite balade avant qu'on enregistre, et j'ai croisé la femme d'un trailer et on a parlé de cette histoire là elle me dit mais tu sais, lui il a fait une sieste au sommet du Puy de Dôme sur telle course, il s'est endormi 10 minutes au milieu du chemin. Et ça lui a fait en fait elle m'a dit c'est comme un switch en fait, c'est comme si d'un coup il était parti sur une autre course, il a basculé sur l'autre course et sur la fin de sa course.
Oui, c'est ça. C'est comme je te disais, en fait, c'est à la fois une récupération physique et mentale. Et de se dire, dès qu'on se réveille, en fait, on est complètement dans un autre mood, dans d'autres objectifs. Et de se dire, bim, je repars. Et mon objectif, ça va être forcément la ligne finale ou les prochains 30 km. Mais c'est souvent très bénéfique. Et ce serait, dans l'idéal, la même chose dans le monde de l'entreprise et le sport, n'en parlons pas. Sur notamment des épreuves d'endurance, de dire une journée de travail c'est 8 heures ou 7 heures, je sais pas comment c'est 8 heures. Donc ça reste une épreuve d'endurance. Donc si au milieu on fait pas de coupure, au bout de 4-5 heures, c'est long quoi.
Il y a des pays où la sieste est autorisée, où ça fait part culturellement. Au Japon, notamment, où ils ont des espaces particuliers et tout. J'ai lu aussi, alors je ne sais pas si tu peux me confirmer, ou je ne sais pas où j'ai lu ça, que les Espagnols, on parle beaucoup de la sieste, mais qu'on essayait de leur supprimer et que ça posait quand même pas mal de problèmes de santé, cette histoire-là, parce qu'on essaye de les remettre sur le rythme, j'allais dire des Allemands, mais c'est très machinal, mais ce n'est pas si machinal que ça, parce que c'est une question de rythme de société encore, de se dire qu'il faut vivre au même rythme que le reste de l'Europe. Et que culturellement, on se rend compte quand même que un aspect du bien-être de certains pays, et notamment des fameuses zones bleues dont on parle sur la longévité, elles sont quand même beaucoup basées autour de la... On parle beaucoup d'alimentation, mais aussi beaucoup de sommeil, de sieste. Hein.
Ouais, bien sûr. C'est souvent du temps qui est assimilé, associé à la sieste. Et en fait, c'est vraiment du temps pour soi. finalement. Parce que les gens, oui, peut-être entre 13h et 16h, il y a du temps off. Donc, il y en a qui vont faire la sieste, il y en a qui vont, je sais pas, ils font leur vie. Mais c'est vraiment, comme tu dis, culturellement parlant, et notamment dans les pays chauds aussi, où en fait, c'est même pas la peine en fait, d'essayer de faire quelque chose entre 13h et 16h ou 17h, il fait trop chaud. Mais personne ne sort, personne n'est dans les rues, donc oui, autant prendre ce temps-là pour se reposer, faire la sieste ou faire d'autres choses. Et culturellement parlant, c'est comme ça, et surtout aussi au niveau scolaire. Parce qu'on voit aussi que bah, les enfants en France, ils sont à l'école de 8h à 17h. C'est, ouais, voilà. Donc bah, forcément, le rythme des entreprises est calé sur l'école. Quand on va plutôt dans les pays scandinaves ou quoi, bah, les journées à l'école sont beaucoup plus courtes, donc les journées au travail sont aussi différentes. Donc oui, c'est une mentalité, des habitudes de vie et qu'il faut changer. Et forcément, quand ça fait des années, voire des siècles que c'est installé et que le gouvernement t'annonce que tu n'auras plus ce temps-là, oui, ça, je comprends les Espagnols qui sont pas très très d'accord.
Mais n'empêche que c'est. Enfin, moi, j'ai une prédiction. L'autre jour, je l'ai dit à quelqu'un. Je dis, de toute façon, avec le réchauffement climatique dont on parle, et hier, je disais un truc du Monde, comment on va vivre la France avec 4 degrés en plus toute l'année, etc. Enfin, il y a un moment où on dit les cultures, ce qui se cultivait dans le sud remonte vers le nord. Enfin, j'ai envie de dire, on va devoir s'adapter. Enfin, tu dis, il y a des pays. Moi, c'est vrai que j'étais en Andalousie en été. Tu peux pas, c'est pas possible. Il y a un moment donné, c'est comme la Grèce en début d'après-midi, putain, à Athènes en début d'après-midi, t'es KO. Mais si on se retrouve le jour où à Bordeaux ou à Paris, tu auras le temps de la Grèce maintenant, il y a un moment donné, il va bien falloir trouver un moyen de se dire, on pourrait s'adapter par cette manière-là. Enfin, on va pas mettre la clim en permanence et enfin, non, je sais pas.
Oh bah pourquoi pas, hein? Non, mais je veux dire, voilà, après, le monde va évoluer, le monde du travail va évoluer, l'environnement, le changement climatique, n'en parlons pas, les chaleurs, les précipitations, aussi. Donc, ça va être une évolution constante, en fait, de nos rythmes de vie. Et c'est ça aussi tout le challenge autour du sommeil, c'est de dire. Je suis dans tel environnement, au niveau, je veux dire, météo, mais aussi sociétal, rythme, etc. Comment aussi, moi, je fais avec mes propres rythmes biologiques pour m'introduire et me faxer, entre guillemets, dans un environnement, en fait, qui est mon quotidien. Et de faire en sorte que, bah, sur la longévité, ça soit le plus agréable. Donc, oui, on sera voué, à mon avis, à changer, nos rythmes de vie et nos habitudes. Encore faut-il l'accepter.
T'as croisé des gens qui ont, par exemple, changé de métier, changé d'activité en disant, moi je me rendais compte que j'arrivais pas à dormir, que j'étais toujours en fatigue et tout, qui fait que je change un truc et qui ont vraiment axé là-dessus.
Alors, c'est indirect, en fait. Ils ne font pas directement le lien avec le sommeil, mais c'est bah, j'étais fatiguée, je ne supportais pas au niveau de la pression, je voyageais tout le temps, j'étais tout le temps dans la voiture, je m'endormais au volant, etc. Donc finalement, en fait, le sommeil était impacté, mais aussi leur mental aussi. Donc ce qui est visible, c'est bah, la prise de poids, les cernes, le visage plutôt pâle, on s'endort, on est irritable, etc. Ça, c'est vraiment ce qui est visible. Et ce qui est invisible, c'est comme tu disais tout à l'heure, la récupération invisible, bah, c'est tout ce qui se passe bah, au niveau mental, au niveau cardiaque, l'hypertension, des trucs bien sympathiques. Il y en a qui se. Voilà, des trucs d'inattention. Bah, je suis sortie chez moi, j'ai loupé la marche, je me suis cassé une jambe. Voilà. C'est des trucs tout bêtes et qui nous arrivent tous les jours, malheureusement, mais c'est ce manque de lucidité et de vigilance qui fait que des fois on peut avoir des accidents ou des presque accidents qu'on aurait pu éviter. Donc, les gens qui ont changé de métier par rapport au sommeil, c'est indirect, ouais.
C'est indirect, ouais. Mais
Ouais.
peut-être qu'après, ils se rendent compte que ça va mieux quand même quand ils ont. Mais peut-être qu'ils font pas le lien direct avec le sommeil non plus, d'ailleurs. Qu'ils disent, bah, j'ai moins de pression, ou je sais pas quoi, enfin.
Après, c'est des gens qui ont cette révélation, entre guillemets, de je vais prendre soin de moi. Donc, ça passe par la nutrition, le sport, le sommeil, la relaxation, etc. Et c'est là après où ils prennent conscience que leur corps, il leur envoie un message de détresse, quoi, de dire c'est too much pour la personne, sur tous les points de vue. Et encore une fois, en fait, si on s'attache qu'à son sommeil, mais qu'à côté, on ne fait rien au niveau nutritionnel, sport, etc., on aura beau faire tous les efforts du monde, c'est un ensemble qui va fonctionner et ce n'est pas juste quelque chose qui est isolé.
Voilà, et bien, vous avez compris pourquoi moi je suis Sam. Sommeil, alimentation, mouvement, c'est ma philosophie de vie là-dessus. Et aussi pourquoi quand j'avais fait un épisode sur Sam, j'ai dit le truc, c'est qu'à une époque j'étais testeur d'anticerne. Sur mon blog, je testais tous les anticernes qui passaient, etc. Et puis après, je me suis mis à dormir. J'ai
C'est
plus,
simple.
enfin, l'autre jour, dans la grange, je fouillais dans la grange, j'ai trouvé des anticernes. Mais j'en testais plein et tout. J'étais invité par les marques pour tester les une bille, deux billes, trois billes rafraîchissantes, etc. Et tout. Mais ça fait plusieurs années que je n'utilise plus. Alors des fois, le sommeil il peut être perturbé, hein, parce qu'il peut y avoir plein de perturbations du sommeil, des choses comme ça. Il faut arriver à régler et c'est pas facile. Et t'as donné quelques conseils, etc. Vraiment la force de l'habitude et tout, et puis bah, essayer d'avoir les interactions, je pense, entre tous les éléments, parce que c'est vrai que le stress va provoquer un sommeil, va impacter le sommeil, mais le sommeil en lui-même qui est mauvais peut créer du stress. L'autre jour, on a enregistré un épisode qui va venir bientôt sur le glucose. Moi, je m'étais jamais rendu compte à quel point le stress avait un impact sur nos besoins de sucre, et tu en as parlé, etc. Donc, c'est vraiment un ensemble, c'est-à-dire que on peut pas le. C'est-à-dire que, y a le réductionnisme en alimentation, on se dit, ouais, mais là, je prends ça, je prends juste les protéines de ça, et puis ça va marcher. Mais sur le sommeil et sur la santé, on ne peut pas le faire, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire, allez, hop, je mets 8 heures de sommeil de plus et tout va aller mieux d'un coup. Parce que pour arriver à faire ça déjà, il faut faire plein d'autres choses autour pour que ça marche.
Oui, c'est ça. Et puis, souvent, on attend les solutions miracles. Ou les solutions, comme tu disais, ah, si je fais ça aujourd'hui, est-ce que demain, je vois la différence? Ben... Et comme on est dans un engouement de dire, bah, je commande ça, ça arrive dans 10 minutes, en fait, le clic, hop, tout arrive, en fait, tout est vite, tout est à disposition, tout est rapide, etc. Bah, au niveau de la santé, bah, c'est pas du jour au lendemain. Donc oui, il faut être un peu patient, essayer. Souvent, moi, je conseille, en fait, et je vois souvent les sportifs, en fait, tous les mois ou tous les 2 mois pour dire, on va essayer de mettre en place des choses. Si au bout d'un mois, ça a fait effet, bah, tant mieux. Si déjà au bout de 2 semaines, tu as atteint tes objectifs et que tu vois déjà une amélioration, bah, on peut se revoir plus tôt. Ou si au bout d'un mois, bah, ça n'a pas changé, bah, on va peut-être essayer autre chose. Parce que des fois, il y a des conseils que je donne que les personnes essayent d'appliquer, mais ce n'est pas forcément hyper approprié, etc. Donc, c'est tout le charme aussi du sommeil. De se dire, voilà, partir d'une théorie, le mettre en pratique et voir si ça fonctionne réellement.
J'ai une dernière question. Tout à l'heure, tu as cité l'histoire des appareils de mesure, etc. Et tu as parlé des montres. On peut se fier à ce que racontent les montres. Parce que moi, ma montre, elle me surveille mon sommeil. Ceux qui ont une Apple Watch surveillent leur sommeil, etc. J'ai eu longtemps un bracelet Fitbit qui surveille mon sommeil, etc. Quoique le Fitbit était bien parce que je pouvais même marquer ma sieste dessus. Et ça, c'était un truc qui était cool. On peut prendre en compte ou pas ces informations là-dessus?
C'est une indication, on va dire. Ce ne sont pas des outils qui sont, pour l'instant, hein, validés scientifiquement. Ça veut dire qu'il y a une méthode de référence d'analyse du sommeil qui est la polysomnographie. Donc, c'est on vous met des électrodes un peu partout pour voir notamment l'activité cérébrale, le mouvement des yeux, du menton, des jambes, le ronflement, les positions, la respiration, la fréquence cardiaque, etc. Et en fonction de tout ça, tous ces paramètres, c'est-à-dire une dizaine quand même, on arrive à détecter si vous avez un sommeil profond, lent, paradoxal, si vous vous réveillez, si vous ne vous réveillez pas, si vous bougez les jambes, etc. Les montres, en fait, c'est ju juste entre guillemets un actimètre, donc ça veut dire que ça va mesurer le mouvement que vous faites. L'intensité et la direction. Et les montres aussi ont un détecteur de fréquence cardiaque au poignet. Voilà. Et il y a des algorithmes, du coup, entre le mouvement et la fréquence cardiaque, ça va vous indiquer si vous êtes éveillé, endormi, sommeil profond, etc. Ça se base sur 2 paramètres, alors que la méthode de référence pour l'enregistrement, pour dire vraiment comment vous dormez, ça se base sur une dizaine. Voilà, donc forcément, c'est plus ou moins fiable. Les capteurs, selon les fabricants, sont plus ou moins fiables aussi. Là, ils sont en train de faire une étude à l'Hôtel Dieu à Paris sur justement six montres et une bague, avec aussi la méthode de référence, et de voir quelle montre se rapproche le plus du résultat. Il y en a notamment deux marques qui sortent du lot, mais les restes, c'est au moins 50% de différence, quoi. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, on va dire.
Ouais, non, parce que je vois beaucoup de gens qui en parlent en fait sur les réseaux sociaux qui disent ouais, oui. Je me suis rendu compte, j'ai pas de sommeil profond à ce moment-là, voilà. Etc. Et qui se déconnectent de leurs sensations personnelles aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est un peu comme la mesure quand on court, on regarde la fréquence cardiaque, on dit ah, tac, mais qu'on n'associe pas à la sensation qu'on a sur l'instant. Et ça me fait un dernier clin d'œil à Hermano, parce que Hermano me dit mais moi je cours à la sensation. Je dis mais tu cours vite, il me dit je cours à la sensation. Mais sur le sommeil, il y a des fois, on le sait, le matin on se sent bien, on est bien reposé, etc. Et même si notre montre elle indique qu'on a dormi mal, peut-être que c'est la montre qui peut se tromper et pas forcément nous qui nous trompons, quoi.
Exactement. Bah, c'est à qui on donne raison, en fait. Est-ce qu'on donne raison à une montre qui mesure, ou est-ce qu'on donne raison à notre propre ressenti? Généralement, bon, c'est un peu des deux, mais c'est surtout en fait que ces montres-là, elles vont nous donner du data, et après, t'en fais quoi? Donc oui, je fais pas de sommeil profond, et alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc ça peut parfois mettre justement sur une piste de dire bah là ça fait un mois que j'ai ma montre, je vois que ma fréquence cardiaque elle fait augmenter, elle descend, elle monte, elle descend, ça veut dire que mon cœur la nuit il arrive pas à se reposer, quoi. Et ça peut être plus une indication à aller voir un médecin du sommeil spécialisé. Alors ils adorent, hein, quand les gens disent alors ma montre m'a dit que, alors ça ils adorent. Mais ça peut être un premier outil pour dire pour aller voir plutôt un professionnel de la santé. Mais voilà, pas juste rester avec des résultats et rien en faire, c'est un peu dommage.
Eh bien écoute, voilà, sur cette conclusion, c'est une très bonne conclusion, mais parce que tout le monde s'inquiète et on a tous des cardio-fréquences-mètres, un truc et tout. Ouais, ouais. Et je la voyais se clignoter la nuit dernière en me disant, tiens, elle est en train de prendre ma fréquence cardiaque et tout. Et puis elle dit, hein, fréquence au repos, fréquence moyenne pendant la nuit, enfin, elle mesure tous ces éléments-là, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait, hein? C'est comme les capteurs. Il y a des épisodes qui arrivent bientôt, on fait un épisode sur le capteur de glucose. C'est pareil, moi je me dis, tu mets un capteur de glucose, je ne sais pas quoi en faire. La plupart des gens, en fait, entre sommeil profond, paradoxal, etc., se rendent pas compte, parce que c'est vrai que la connaissance, et on peut en parler des heures de ces histoires-là, de à quoi servent toutes les différentes phases de sommeil. Et rappelons qu'on a besoin de toutes les phases de sommeil, hein, qu'il n'y en a pas une qui est, elles sont toutes importantes, etc. Et que c'est vraiment important. Ouais, mais t'as vu, j'ai révisé, hein. Franchement, je me suis entraîné sur le sommeil. Juste un truc, c'est que il va falloir que je m'entraîne à faire ces courtes siestes, parce que je me dis, il y a ces bouts de sieste, etc. Et puis, j'ai toujours été fasciné par tu sais, les expériences de certains Américains, notamment dans la Silicon Valley, ils faisaient beaucoup de polyphasique. On a beaucoup parlé des patrons de Facebook et compagnie qui dormaient 4-5 heures, qui se réveillaient en pleine nuit pour faire du sport, qui travaillaient à fond, puis qui se rendorment 4 ou 5 heures. Ils n'ont pas d'enfants, hein, à amener à l'école le matin, parce que sinon, c'est ingérable. Et on sait à quel point les enfants détraquent un peu tout le sommeil, etc. Mais là, on pourrait faire des épisodes complets. En tout cas, Lucille, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Si on veut te suivre, te contacter, comment on fait? On peut te retrouver où?
Ouais, bah sur LinkedIn, déjà c'est plus facile, Lucille Maffre. Et puis après, j'ai un site internet sur lequel j'ai essayé de répertorier un peu toutes les facettes du sommeil. Donc il y a des techniques pour l'endormissement, des choses sur les rêves, des choses pour le décalage horaire, etc. Bon, vous trouverez votre bonheur, c'est comme une bibliothèque, donc vous pouvez y retourner plusieurs fois, c'est plus facile à lire, on va dire. Et voilà.
Eh ben écoute, tu sais quoi, moi tu m'envoies le lien, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. LinkedIn, site internet, etc. Comme ça, vous regardez dans la description de l'épisode, là vous regardez, je mets les liens, et puis en dessous, quand vous y êtes, vous mettez une petite note 5 étoiles. Et vous pouvez mettre un commentaire si vous êtes sur Spotify pour poser des questions, je mettrai une question spécifique au sommeil. Dormez-vous bien, enfin, c'est pas facile de répondre à cette question. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par celle-là au tout début, pour voir comment t'allais répondre. En tout cas, Lucille, merci beaucoup. C'était un plaisir d'apprendre, d'en découvrir toujours un peu plus sur ce domaine, qui pour moi vraiment fait partie, et pour ça qu'il est en premier dans la méthode SAM, sommeil, à quel point il est important. Merci beaucoup, et puis bien écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ouh là là, nouvelle invitée. Tiens, je lui demanderai si elle dort bien, parce que tu sais quoi, c'est une triathlète. Et les triathlètes, en général, ils sont pas réputés pour leur rythme de vie très reposant. Surtout quand ils sont professionnels. Voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, merci Lucille et à très vite. Et puis, merci beaucoup pour ces conseils. Ciao, ciao.
Merci à toi. Bonne journée.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.